de fer.
Hey, salut tous les auditeurs de la 16.fr.
Eh bien, bonjour salut à tous. Bon après-midi. C'est rare qu'on se retrouve comme ça à 14h. On y est. On est en direct. Vous n'avez même pas vu la différence. On est en direct depuis 15 secondes maintenant, depuis 50 secondes. Nous sommes en direct ici à l'espace Lunès pour le Salon du Jeu d'Angoulême. Donc, c'est la 5e édition. Et tout au long de l'après-midi, nous allons recevoir plein de gens, dont j'ai la liste ici dans la poche, pliée en quatre. Et également, Eric, qui va nous faire un petit coucou. Tu peux prendre un micro. Ah, tu vas chercher Paria. Paria, il est au courant. Monsieur Paria, Alex de Paria, qui est là. Et donc, nous avons également Eric qui vient nous faire un petit coucou. Eric prend un micro, juste pour installez-vous tranquillement. Il y a un casque pour deux, mais c'est pas grave, il suffit de vous parler comme ça, on vous entend bien. Voilà, il faut juste allumer, tu peux lui allumer le micro. Hop, toc, et je toc, et voilà. Eh ben, bienvenue.
Merci.
Alors, c'était une sacrée préparation, ce salon. Bien dans le micro.
Avec le Covid, tous les inconvénients, là, habituellement, on met à peu près un an de préparation.
Oui.
Bah là, on a mis 4 mois parce qu'on ne savait pas trop où aller, sachant que Lunès était un vaccinodrome, donc avec un risque de fermeture dernière minute s'il venait à rouvrir. Donc, en fin de compte, ce qu'on fait habituellement sur un an, bah, on l'a fait en 4 mois. Donc, on a couru. Donc, on a quand même toutes les maisons d'édition, les professionnels qui nous ont quand même suivis dans l'aventure, malgré le risque d'annulation, bah, jusqu'à hier.
Voilà. Donc, c'était dans l'incertitude totale.
Voilà, le préfet a très bien pu lui dire annulation.
Annulation voilà. Au dernier moment. Ouais.
Voilà. Parce que l'année dernière, vous ne l'avez pas fait, c'est ça?
Non, on ne l'a pas fait justement à cause du Covid. Ça a été annulé 15 jours avant. Donc, là, on ne voulait pas prendre de risque du tout. Donc, on a attendu. Puis, à un moment donné, on a dit il faut qu'on fasse. Parce que si c'est maintenu, si on a 15 jours pour faire, ce n'est pas la peine. Donc,
D'accord. Bon, bah c'est courageux. On se retrouve, Eric, à la fin de cet après-midi.
Voilà.
On va interviewer donc les exposants, voilà. Les créateurs de jeux.
C'est ça. Vous avez des exposants, les maisons d'édition qui nous soutiennent, comme Paria, donc qui nous font confiance parce que c'est leur première fois chez nous. Donc il y a ça aussi. On a beaucoup de nouveautés, donc je vous en parlerai ce soir. Mais voilà,
très bien.
Vous allez avoir quoi discuter jeux tout après-midi.
Eh bien, super.
Okay.
Eh bien, je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Et donc, sans plus attendre, Alex de la maison d'édition Paria, c'est ça?
C'est ça, c'est bien moi.
Eh bien, bienvenue derrière le micro de la 16. Alors, Paria, qu'est-ce que c'est? Bon, une maison d'édition, mais un peu plus en détail.
Alors, la version très courte, c'est que Paria, c'est une maison d'édition de jeux de société familiale. Donc, en gros, il y a mon frangin, ma femme et moi-même.
Ouais, bien.
Et qu'on fait un petit peu notre petite tambouille un petit peu à la Berrichonne dans le Berry, donc on est de là-bas, on fait ça dans notre petit local et on essaye de faire au mieux avec nos petites mains et nos petites ressources.
D'accord. Ça fait depuis combien de temps que ça existe?
Alors très officiellement le 20 février exactement je crois 2019 et officieusement on a un an et demi à peu près d'existence puisque le temps de monter la communauté, le temps d'exister, ça sert à rien en France de créer une structure tout de suite puisque tu te fais agresser par les taxes.
C'est vrai.
Voilà, donc en vrai ça fait à peu près 5 ans, 2016 et puis sinon officiellement 3 ans quoi.
D'accord,
très bien.
Comment ça se passe au quotidien la gestion d'une maison d'édition?
Ben, c'est beaucoup de souffrance déjà,
ouais.
Beaucoup d'amour. Je dirais que c'est. On fait ça à plein temps, donc on a la chance ou, je sais pas, je dirais le courage de tenter ça à plein temps. La plupart font ça à côté d'un autre vrai métier, entre guillemets, parce que c'est difficile d'en vivre.
Ouais.
Mais pour nous, c'est beaucoup de création de jeux, de s'y mettre à fond sur les relectures des règles, sur un petit peu tout ce qui a besoin d'être fait pour créer un jeu. Et sachant que comme on est éditeur, auteur, créateur, parce qu'en fait on n'édite pas les autres auteurs, donc en fait on a la main sur l'intégralité du processus créatif. Donc en fonction des moments de l'année, on a des phases de création de jeux, de tests de prototypage, on a un petit peu tout ça, puis après on va passer plutôt sur des phases d'édition, donc trouver les fournisseurs, se battre avec le Covid pour le transport, et puis après il y a le Evergreen qui fait un griff, une espèce de drift là sur le canal de Suez, donc qui galère. Donc on se bat un petit peu avec tout ça, et après bien sûr il y a tous les déplacements qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, donc on va rencontrer du public, du nouveau public, parce que c'est la première fois qu'on vient à Angoulême, et on essaie de grossir petit à petit notre communauté de manière très organique, parce que la plupart des gens qui sont sur le Facebook, qui nous suivent en fait, on les a rencontrés en vrai, on a joué avec, on a finalement très peu de personnes qui nous découvrent de nulle part, donc c'est cool. Et en gros c'est un peu ça, donc création, prototypage, édition, galérage, beaucoup de galérage, et puis après rencontre avec les vrais gens de la vraie vie. Mais avec le Covid, c'est un peu difficile. Quoi.
Alors,
c'est ça.
Nous, on a des auditeurs, on va dire.
Des vrais auditeurs.
Des auditeurs lambda qui connaissent le Monopoly, le Cluedo et Risk, tout au plus.
Ah, Risk.
Là, en faisant le tour du salon du jeu, et dont Paria également, je vois qu'il y a plein de jeux différents. Des jeux, c'est des jeux de plateau, c'est ça? Des jeux de cartes? Comment ça s'appelle?
Il y a vraiment de tout, en fait. Hein. Il y a du jeu de plateau, du jeu de cartes, du jeu de société, du jeu de rôle. En fait, ce qui est presque dommage pour les gens qui n'ont pas pris le temps, c'est franchement, posez-vous la question. Allez voir un professionnel du jeu de société et allez lui poser la question. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi pour tous les goûts et pour tous les niveaux, en fait. Et toute proportion gardée, et nous on en parle beaucoup dans le métier, c'est que Monopoly en vrai c'est pas un très bon jeu, c'est même assez désagréable à jouer, c'est très long, ça se termine jamais. Il y a des très bons jeux, non mais en vrai, ça se termine jamais Monopoly, c'est une longue descente aux enfers qui dure 6 heures quand on fait vraiment les règles. Mais en vrai il y a vraiment de tout pour tout le monde et n'importe quoi, et puis ça peut être des idées intéressantes. Il y a vraiment un monde en fait que vous ne soupçonnez pas, vous ne savez pas ce qui existe dans ce monde là, c'est absolument incroyable et c'est quasiment indescriptible en fait.
Alors justement, ils ont parlé cette semaine sur France Télévisions, au journal de 13h je crois, ou au 20h, et ils disaient que justement avec le confinement, le Covid, les jeux de société ont pris de l'essor et que les ventes ont augmenté.
Bah bien sûr, quitte à être bloqué à la maison devant la télé, autant faire un peu de jeux de société. Exactement, ça permet de se retrouver. Puis voilà, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller en resto, on ne peut rien faire. Cet argent-là, vous le mettez en jeu de société, puis vous allez vous retrouver avec des soirées incroyables et des tas de moments ludiques en famille qui sont hyper intéressants. Pour peu que vous soyez prêts en plus à vous intéresser, sachant que dans les boutiques, on peut vous présenter les jeux, il n'y a même pas besoin de lire les règles en fait. Vous faites une partie avec le créateur ou le revendeur, et puis après, vous êtes rentré à la maison et vous jouez
tranquille.
Il y a des tas de manières d'aborder ce monde-là sans se prendre. Sans en avoir peur en fait. Et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Vous pouvez sortir un concept idiot sur n'importe quel jeu de société. Je suis sûr que vous dites lapin pirate, il y a un jeu lapin pirate. Il y a tellement d'offres potentielles.
Ça changerait de lapin crétin.
Non mais c'est absolument incroyable ce qu'on peut trouver. Il y a de tout qui existe et c'est vrai que c'est beau de voir que le Covid a relancé un petit peu ce truc-là. Nous on l'a senti d'ailleurs au niveau des ventes, hein, forcément au niveau de Paria, quand le Covid ça a démarré, on a eu une espèce de boost au niveau des ventes quoi.
Bon, très bien, faut bien que de temps en temps cette situation profite à quelqu'un.
Oui.
Chez Paria, c'est quoi un peu votre fierté, là, le jeu qui vient de sortir, la cartouche que vous avez envie de proposer, dont vous êtes le plus fier?
Alors nous, on est surtout connu pour le jeu qui s'appelle L'Ordre de Veillel, donc c'est un jeu d'initiation au jeu de rôle, donc ce serait pour les joueurs qui sont un petit peu joueurs quand même et qui ont envie de se lancer dans cette grosse marmite qu'est le jeu de rôle. Mmh. Et l'idée, c'est pour nous de faire un jeu qui soit hyper didactique, hyper facile à apprendre et qui pour autant permette donc de réunir en gros les expérimentés et les novices, puisque les expérimentés vont s'y retrouver dans les synergies, dans les possibilités d'optimisation, et pour les novices, et ben en gros, si on sait compter jusqu'à 30 et qu'on sait lire du texte, normalement ça roule relativement bien. Et donc on a fait ce jeu là qui est un peu notre fierté, parce que c'est ce qui nous fait connaître, c'est ce qui se vend le mieux. Et il y a la suite d'ailleurs qui arrive dans pas trop longtemps, donc en vrai nous on est très très content de ce jeu, on est très très content de le faire découvrir à chaque fois, et on est toujours très content quand il y a quelqu'un qui connaît rien qui me dit bah c'est super, c'est avec ça que je vais démarrer le jeu de rôle, parce que c'est une personne de plus qui va nous rejoindre dans cette grande famille.
Donc il est facile, accessible, même pour les gens qui n'y connaissent rien en jeu de rôle.
Alors celui qui, ouais, en jeu de rôle. Par contre, celui qui ne connaîtrait rien en jeu tout court, c'est quand même un jeu, il y a des règles, il faut prendre le temps de les lire, il y a quand même un petit peu de taf. Mais celui qui connaît les jeux mais qui n'a jamais fait de jeu de rôle, lui, banco, il n'a aucun problème, il rentrera dedans. Mais après, en plus, il y a des vidéos, il y a des tutos maintenant sur YouTube dans tous les sens. On a plein d'influenceurs qui ont parlé de nous, donc il y a largement moyen de rentrer maintenant dans le produit. Quoi.
On répète le titre pour nos auditeurs, peut-être ?
L'Ordre de Veillel.
L'Ordre de Veillel. Alors, sympa.
À l'heure du numérique, où effectivement maintenant il y a des tablettes, des écrans partout, comment t'expliques qu'il y a un engouement comme ça ? Bon, effectivement il y a le Covid, mais ça ne doit pas être la seule raison, où les gens ont besoin de se retrouver comme ça derrière un...
C'est une bonne question.
La clientèle qui est-elle, peut-être ?
La clientèle, quelle est... Je sais, il n'y a pas de personne type, en fait.
J'ai tenté une petite réponse, j'en suis pas sûr, parce que moi, je ne suis pas professionnel du jeu. Comment dire, je pense que justement, par rapport à tout ce qui est streaming et un peu virtuel, alors, que ce soit même dans le jeu, puisque maintenant, pour... alors là, on va peut-être plus parler jeux vidéo, pour le coup, mais pour les jeux sur ordinateur ou console, c'est beaucoup de dématérialisé. Peut-être qu'il y a un retour, justement, les gens ont envie de quelque chose d'un bien palpable.
Bah, l'objet physique, il a toujours fait son travail, et d'ailleurs, on le voit dans les les collecteurs au niveau du jeu vidéo. Hein. Les gens, ils peuvent acheter le jeu à 50 balles en dématérialisé, ils vont prendre le truc à 100 euros sous prétexte qu'il y a une figurine,
une petite, ouais, voilà, tout à fait.
Machin. Le palpable, c'est toujours différent. D'ailleurs, même dans le monde du streaming, sur Twitch et sur toutes ces plateformes un peu de streaming, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui s'installent, de gens qui font tester les jeux de société. Donc c'est vrai qu'il y a un retour à ce niveau-là, cette envie de repartager cette expérience. Moi, je pense que de toute façon, les cultures ont fait toujours des tours de boucle. Hein. Et on a fait du jeu de plateau, enfin on a fait du jeu papier, puis après on a fait du jeu de plateau, puis on a fait du jeu vidéo, et maintenant, ouais, on est en train de faire le chemin inverse en fait.
Ouais.
Alors, souvent ça boucle, hein, comme la mode, et là je pense que voilà, on a peut-être un trop de jeux vidéo et un retour au jeu de plateau.
Exactement.
Un moment, on en aura marre et qu'on reviendra au jeu vidéo.
Mais c'est vrai que c'est.
Les tendances bouclent, changent, ouais, et puis c'est comme ça en fait. Je pense pas qu'il y ait d'explication magique à ça.
Vous avez essayé de jouer en distanciel ?
On a essayé, il y a plein de plateformes qui permettent de dématérialiser les jeux, de en gros les dupliquer sur internet, sur ordi. Le feeling n'est pas le même, donc ça marche.
Ouais.
On l'a essayé avec il y a du Tabletopia, du Game on Tabletop, il y a tous ces tas de logiciels en fait qui permettent un peu de faire ça. C'est déjà très désagréable à configurer, ça bug très souvent et c'est pas pareil. C'est vrai que avoir le papier, le dé et la personne en face, ben, ça serait comme de, ouais, boire une bière au téléphone et boire une bière en face sur le même canapé.
C'est vrai que c'est pas pareil.
On peut rien y faire, hein, ça sera jamais pareil, je pense.
D'accord. Comment on arrive dans le jeu de rôle, dans le jeu de plateau comme ça ?
Je pense qu'on rencontre un passionné souvent et c'est pas ce qui manque. Moi, ouais, j'ai été initié, j'avais 10-11 ans par un mec et puis voilà, on est 20 ans plus tard, maintenant j'en ai fait mon métier. Donc ouais, je pense que c'est une rencontre, à un moment, un gars de taré qui a en général une ludothèque qui prend l'intégralité d'un mur et qui nous dit « je vais t'apprendre la vie ». Et effectivement, petit à petit, on vit des super moments. C'est vrai que c'est souvent. Après, il y a pas mal de gens aussi qui découvrent au travers de ces événements-là. Hein. Ça arrive d'avoir des gens qui n'y connaissent rien du tout.
Mmh. Et
qui,
bah, nous, par exemple.
Voilà, comme Angoulême, et qui disent bah, je vais découvrir. Et puis, ils découvrent un monde, en fait. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, dans l'imaginaire, c'est. Mais comme l'informatique, hein, parce que moi je fais de l'informatique, ouais, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien de l'extérieur, on a l'impression que c'est très fermé en fait et que ça se limite à quelques petits points qu'on ne comprend pas, mais en fait c'est incroyable l'univers qu'il y a derrière. Et le jeu société, c'est cet effet-là, quoi. Il suffit de regarder en fait dans une boutique, vous regardez un pan de mur, c'est il y a de tout vraiment et de n'importe quoi, c'est absolument incroyable, quoi. Qu'il y ait une créativité en fait artistique à ce niveau-là et ludique qui permet aux gens de s'exprimer de tas de manières différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des jeux pour les gamins de 3 ans jusqu'à n'importe quel âge, de n'importe quel niveau, n'importe quel univers, c'est fou, quoi. C'est absolument fou.
On le voit, on a fait tester, on a le petit Gaspard avec nous. Il fait le tour des prototypes de jeux et tout ça, et apparemment, ça a l'air d'accrocher.
Il va avoir une sacrée liste au Père Noël.
Il a l'air de passer un bon moment, lui. Ouais.
Bah oui, ouais. Il essaye différents jeux et tout ça. De l'idée du jeu, l'idée bien avancée jusqu'à la sortie de la boîte, ça met combien de temps en général ?
Eh ben, c'est hyper dépendant du projet parce, ouais, que là par exemple on a fait un petit jeu de cartes il n'y a pas longtemps, je pense que bout à bout ça va être peut-être un mois et demi, et c'est vraiment un petit jeu de cartes.
Ah ouais.
Mais l'Ordre de Veil, typiquement le gros jeu d'initiation jeu de rôle, pondre les règles en gros ça a pris je sais pas 2 demi-journées. Par contre l'optimisation des personnages, parce que c'est des jeux qui sont assez particuliers, on a des personnages, on incarne des choses, on se bat contre des monstres, et si c'est pas optimisé au quart de poil pour que les joueurs soient toujours sous tension et que chacun ait un personnage qui ait l'impression de bien faire son travail mais pas trop non plus, et ça prend un temps fou,
oui, pour ça, qu'il y ait des niveaux parce que c'est les dés en fin de compte qui font,
voilà,
qui font
jouer, il y a de l'aléatoire, mais il faut qu'effectivement bah, toutes les valeurs soient à peu près équilibrées pour tout le monde et qu'on ait tous cette sensation d'être dans une équipe et que chacun fasse la part de son travail en fait. Et cette notion d'optimisation qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo et qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de société quand ils sont assez cossus, ça c'est 1 an et demi, 2 ans juste à faire ça, à tester le jeu dans tous les sens, qu'attendre qu'on arrête de trouver des gens qui arrivent à nous casser le jeu d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est alors que en vrai la base ça a été peut-être 2 jours, mais par contre optimiser 2 ans. Et c'est, okay, et c'est à ça aussi qu'on reconnaît la saveur du jeu, quoi. C'est quand on va le sortir 30-40 fois, on va pas réussir à le casser, on va pas réussir à trouver de mode opératoire qui fait que le jeu il est cassé et que soit on est beaucoup trop fort, soit on ne gagne jamais, parce qu'il y a des jeux où on ne gagne jamais sans tricher, et il y a, ouais, des jeux où on gagne tout le temps dès qu'on a trouvé la faille. Et quand on arrive à faire un jeu où il y a ni l'un ni l'autre, c'est qu'on est pile poil au bon endroit, et ça c'est long. Ça,
oui, parce que oui, y a des, dans certains jeux, il y a des petites failles qui vont permettre, de, comme, ouais, dans les jeux vidéo, où tu marques dans le coin.
Il y a le passage optimisé, où, et après ce qui se passe, c'est que ça peut créer des clivages entre le joueur qui maîtrise et le joueur qui découvre, et en fait, ça c'est moi, c'est les jeux que j'aime pas, c'est le jeu où je suis novice, je joue avec quelqu'un qui maîtrise, je sais d'avance que j'ai perdu, par exemple, parce qu'on est en confrontation. Parce que lui il connaît et moi non. J'aime bien quand malgré que je sois mauvais ou que je découvre, j'ai quand même quelque part ma petite chance. Bon, après il est normal que celui qui maîtrise ait plus de chance, mais je peux l'avoir. Et il y a des jeux où ça y est pas du tout, et ça pour moi c'est des problèmes d'équilibrage. Et on essaye au maximum, alors franchement je pense qu'on s'embête plus que la plupart, hein. Mais une fois que c'est là, bah, les gens le ressentent, et on le ressent sur la communauté. Ils sont à 50 parties, ils rejouent, ils rejouent, ils rejouent. Et moi il y a des jeux que j'adore, mais j'ai fait 3 parties, j'ai dit j'arrête parce que j'ai compris que si je faisais ça, le premier qui démarre et qui fait ça, il a gagné en fait. Donc on ne peut rien y faire. Donc,
ouais.
après t'es obligé de changer les règles, tout ça, et c'est pas le but quoi. C'est pas moi, si je joue au jeu des autres déjà c'est pas souvent, alors si c'est pour en plus changer leurs règles.
Il y a de la triche dans la communauté de joueurs. Il y a des bons tricheurs ou des mauvais perdants.
Bon, des mauvais perdants, il y en aura toujours. Ma femme en premier, hein, si un jour elle écoute ça, elle le sera. Elle est très mauvaise perdante.
Elle jette le plateau.
Non, mais dès qu'on s'acharne un peu sur elle, ça y est, c'est la colère, quoi. Et puis même si elle gagne, elle est en colère quand même. Donc, de toute façon, elle est plus. C'est dès qu'elle joue, en fait, elle est en colère.
D'accord. Bon, on lui enverra le podcast.
C'est ça. Mais après, des joueurs, il y en a des tricheurs. Après, des fois, parfois, on triche. C'est souvent, moi, je joue. Ça nous arrive de tricher sur les jeux où on gagne jamais, en fait. On dit, on n'arrive jamais à passer, bon, on va tricher au bout d'un moment parce qu'on aimerait bien voir ce qui se passe derrière en fait. Mais non, en vrai c'est plutôt une bonne communauté. D'ailleurs moi dans ma vie j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait pas mal de choses, j'ai rencontré pas mal de types de communautés, et clairement la communauté du jeu de société, je pense que c'est la meilleure communauté que j'ai vue, parce que les gens sont vraiment dans une bonne dynamique ludique, et du coup tout le monde a la banane, tout le monde a le sourire, tout le monde est là pour le fun, tout le monde est hyper compréhensible, et toute proportion gardée, hein, le pourcentage de méchant, désagréable, ou c'est pas sa bonne journée, il t'agresse sans aucune raison, il est proche de zéro. Quoi. J'ai croisé paquet de monde. Et
moins que chez les chasseurs, quoi.
Ouais, moins que chez les chasseurs, peut-être moins que chez la police, moins ce que vous voulez, moins que partout, c'est sûr.
Ouais. Mais, ouais. On sent bien que c'est une bonne ambiance.
Ah oui, et tout le monde a toujours le sourire, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que on passe vraiment des bons moments. Quoi. Et on rencontre toujours des personnes à minima agréables.
Cool.
C'est ça qui est bon. Donc c'est toujours agréable de se déplacer.
Chez Paria, peut-être un titre pour les plus jeunes. Ça commence à quel âge, les premiers jeux là, pour,
L'Ordre de Veillel, même le gros jeu, en vrai, 9 ans, en fait, hein, avec des parents.
Ah ouais, d'accord, il est accessible quand même.
Il est vraiment accessible. D'accord. Bon, après, avec les parents, forcément, qui vont aider un petit peu plus. Oui. Hein, mais dans l'absolu, on a vraiment eu des jeunes. Après, pour le moment, c'est pas facile. Nous, on est plutôt gros joueurs. Je suis plutôt jeu vidéo. Donc en fait, pour moi, c'est plus simple de faire un jeu complexe avec plein de valeurs mathématiques.
Très bien.
Que de me dire je vais mettre 3 couleurs de lapin et je vais réussir à faire un jeu qui amuse les enfants avec ça. Moi j'arrive pas à le faire. Je comprends pas comment les gens arrivent avec vraiment 3 bouts de papier à faire des jeux hyper ludiques pour les enfants, et moi j'arriverai jamais. Les gens ils disent bah oui mais c'est tout con mon jeu, je dis oui mais je n'aurais jamais eu l'idée, alors que moi ils me disent bah, c'est hyper complexe, je sais pas comment tu fais, mais pour moi ça vient naturellement. Donc il y a vraiment cette gymnastique intellectuelle que je n'ai pas, et je sais pas si un jour on se dira on arrive à faire un jeu pour genre 4-5 ans. Et c'est triste pour ma fille parce qu'elle a l'âge, hein, mais elle ne connaîtra probablement jamais de jeu de son papa qui soit jouable à cet âge-là.
Si, ça viendra peut-être.
Quand elle aura 12 ans.
Ça sera un peu trop tard, ouais, je pense. Donc, franchement, moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui arrivent à faire des jeux simples, mais fonctionnels pour ces gens-là, pour les enfants. Voilà. Mais nous, finalement, c'est pas si tard que ça. Quoi. On est sur du 9-10 ans, ils sont bien pour commencer, quoi, large. Surtout s'ils sont un peu entraînés par le papa ou par la maman qui sont joueurs. Après,
c'est ça.
Il y a des enfants, ils sont incroyables. Hein. Ouais. Quand ils ont le nez dedans depuis 18 ans, qu'ils ont 3 ans, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire.
En rejoint avec le livre dont vous êtes le héros, moi je suis un vieux. Hein. Donc dans les années 80, on avait le livre dont vous êtes le héros.
Tout
on
à
en
fait,
a
ouais.
Tous bouquinés 1, 2, 3 ou 4 ou plus. Ça, toi aussi ou...
Ah moi ouais j'en ai eu quelques-uns quand j'étais gamin, et c'est l'ancêtre, c'est une espèce d'ancêtre du jeu de rôle, c'est le fast-food du jeu de rôle de l'époque en fait,
ouais.
Et ça marche extrêmement bien quoi, et il y en a encore qui en font encore actuellement. Nous d'ailleurs la suite de l'Ordre de Veillel, le chapitre 2, il y a cette dynamique là quoi, je lis un texte, ça me donne des choix, je me balade d'embranchement en embranchement, et ça marche très très bien quoi, parce que c'est en même temps il y a suffisamment de souplesse pour qu'on s'approprie l'histoire, et en même temps on est quand même dans un carcan qui nous empêche d'avoir à connaître un univers qui fait 3 fois trop long. Donc c'est un super format ça. Même à tous les enfants. D'ailleurs ils en font maintenant des petits livres dont vous êtes le tout petit héros. J'ai découvert ça il y a 3 semaines.
D'accord.
Juste là ils en vendent là, et c'est incroyable. Moi je lis ça à ma gamine de 4 ans, et elle est folle quoi. C'est elle qui fait les choix.
Ça fait travailler l'imaginaire.
Ouais, bon, c'est vrai que quand on regarde avec le recul, elle a aucune aspect stratégique particulier. Elle choisit le cueilleur et elle va affronter des animaux. Je dis non, tu veux pas les cueillir des plantes plutôt? Elle dit non, moi je veux taper les animaux avec le cueilleur. Ça aurait des chances que ça ne marche pas, mais voilà. Par contre, elle s'approprie le truc quoi. Et on le refait. En plus, c'est des petits livres qui ont énormément de rejouabilité parce qu'il y a plein de choix. Donc on achète un petit bouquin, en fait, on va le relire 50 fois. Donc c'est hyper
ça. Et ça changera toujours.
Ça, ouais. Bon, après, il y a un moment, on est limité quand même.
Oui.
Quand on l'a fait, en vrai, quand on l'a fait 10-12 fois, je pense
qu'on
a pas.
Je pense qu'on est bon.
On est pas mal, mais en vrai, un bouquin 10-12 fois.
L'Ordre de Veillel, donc votre titre on a dit tout à l'heure que vous êtes le plus fier et que vous avez envie de mettre en avant, surtout. On est dans le monde un peu Heroic Fantasy ou pas du tout
SF? On est, ouais, c'est de la... Alors, je suis pas très fan de SF, j'y arrive pas des masses. Hein, je suis pas fan de Star Wars, pour ceux qui me taperont pour ça.
Mais par contre, il n'y a pas d'obligation.
Lord of the Ring, donc Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus mon truc. Là, on est plus dans de la Dark Fantasy, on est plus sur un côté très Game of Thrones. Hein. En gros, c'est de la fantasy ancrée un peu plus dans le réel, au sens où on n'a pas un peu ces héros immortels qui vont affronter vents et marées et qui vont forcément réussir leur quête à la fin. La Dark Fantasy, c'est un petit peu plus posé. On est dans ce genre d'univers-là, on aime bien ces univers un peu dark. On peut se lâcher un peu sur la narration et puis imaginer que ce soit comme tout maintenant, mais il y a des monstres, quoi. Et ça, c'est bien. Moi, ça me fera toujours rêver, ces univers-là.
Et un parallèle entre la vie réelle et les jeux? Ça suit l'actualité? Non, il y a une évolution?
Alors, c'est rigolo parce qu'on a fait effectivement un jeu lors de... À l'époque, avant la pandémie, il y a une corruption, il y a une maladie, il y a tout ça qui se répand. Et puis après, 6 mois plus tard, il y a le Covid qui est arrivé. Donc les gens nous disent mais par le hasard des choses, oui.
Comme par hasard.
Lors de Veil, Covid 2019 édition, ça pourrait carrément.
Un jeu que tu aurais rêvé d'inventer ou de fabriquer ou de produire, d'éditer plutôt?
Un jeu dont je serais jaloux d'avoir eu l'idée.
Ouais, presque jaloux.
Ton jeu préféré.
Ouais.
Un petit peu dans.
C'est là que c'est dur, c'est que en vrai. Moi,
lequel je fais. Allez, les trois premiers, les trois.
Non, mais c'est pire que ça, c'est que je fais des jeux de société, mais en vrai, dans ma vie, j'en ai pas joué à tant que ça, et j'ai une ludothèque, j'ai 10 jeux dedans. Moi.
C'est d'accord.
Ils me disent, tu connais machin, tu connais bidule, et en fait, tous les joueurs avec lesquels je joue, ils ont une plus grande culture que moi. Après, dans ceux que j'aime bien. Bah, j'aurais aimé être là il y a 50 ans et faire Donjons et Dragons, je pense.
Hein. Donjons et Dragons, ouais.
Bah ouais, je pense que j'ai grandi avec ça, j'ai tellement joué à ça, j'ai tellement rêvé avec ça. J'ai lu un moment sur internet quelqu'un qui voyait cette image d'une espèce de marché dark fantasy où il y avait des magiciens, des machins et tout un tas de bestioles, et il disait c'est incroyable parce que ce monde que je n'ai jamais connu me manque. Et c'est vrai que moi je rêverais de. J'attends désespérément que la VR là. Ou qu'on puisse me mettre des implants et que je puisse me téléporter dans un monde comme ça et faire des boules de feu.
Le métavers.
Ouais, voilà, je serais fasciné de, s'il vous plaît, téléporter moi dans un monde comme ça. Je veux faire de la magie, en fait. Voilà.
Donc Alex, vous allez le retrouver dans le métavers d'ici quelques semaines ou quelques mois.
En magicien,
sur la map.
Probablement. Il y a de grandes chances. Ouais. Y a de grandes chances. Ouais, j'aurais aimé être à l'époque où ils ont inventé tout ça. Ça devait être un moment incroyable.
Second Life et tous ces jeux de rôle sur Internet. Pas de jeu de rôle, un jeu de personnage, genre Second Life.
Bah, c'est pareil,
joué ou pas?
Ça manque de magie, quoi.
Je
vois pas l'intérêt de moi jouer une vie qui ressemble désespérément à celle que j'ai maintenant, même si la mienne est quand même déjà bien n'importe quoi parce que je fais du jeu de société. Mais ouais, enfin, si je veux me transporter, j'ai besoin de me faire voyager, et c'est là où la SF moi me fait pas énormément voyager.
D'accord.
Je trouve que tout pareil dans l'espace, mais avec des sables qui font piou-piou, moi ça me chauffe moins que boule de feu, nécromancie, tout ça. Là tout de suite j'y suis, il se passe des trucs que je peux imaginer comme étant incroyable.
Le cinquième élément.
Oh bah oui, non, le cinquième élément. Oui. Après j'en ai quand même des très très bonnes ressources de SF que j'aime beaucoup, ouais. Mais d'ailleurs souvent la SF grand public j'aime beaucoup moins, quoi. Mais par contre j'ai parmi mes films préférés, je pense que c'est quasiment tous des films de SF, toutes proportions gardées. Mais plus des SF ancrés dans une espèce de réel, et forcément le cinquième élément, oui. Ça, c'est, je le mangerai toute ma vie au moins une fois par an, parce que ça passe toujours.
Oui.
Il n'y a rien à dire. Hein.
À tous nos auditeurs, il y a un voyage à gagner à Flosston Paradise.
Voilà, ça, c'est du feel good. Là, je regarde beaucoup Nexus 6 là, sur YouTube.
Ah oui, génial. Ouais.
Voilà, ça, par exemple, c'est absolument incroyable. Tout ça, j'adore. Hein, mais c'est vrai que, par exemple, Star Wars et tous ces grands noms, moins. Star Trek, par exemple, m'a jamais fait rêver non plus. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je voyage moins avec ça. Okay. C'est souvent des robots, c'est souvent c'est pas pareil.
Ouais, il faut l'esprit humain, vivant, quoi.
Ouais, c'est très ingénierie, ça me transporte moins. Voilà, en termes de pur univers en tout cas, quoi.
D'accord. Eh ben super, merci beaucoup Alex.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a oublié de poser une question ou...
Non, pas vraiment. Si l'ordre de veiller ça vous intéresse, paria-edition.fr, vous nous retrouverez sur internet assez facilement. Puis pour le reste.
Et puis directement à l'UNES, je pense, nos auditeurs. Là, si vous nous écoutez, venez nombreux. C'est ouvert salon jusqu'à demain.
Jusqu'à demain. Ce soir jusqu'à.
Du mat ce soir, et demain je crois que c'est 10h-18h.
Ouais. Oui, cette nuit ça dure. Ils vont jouer toute la nuit.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des sessions de jeu d'organiser là en.
Jusqu'à 2h du matin.
2 du matin, et elles ont commencé déjà là en plein après-midi?
Ah bah oui, on voit qu'il y a des joueurs là qui sont debout autour d'une table. Ah bah
après, il y a des jeux qui se jouent en un quart d'heure, 10 minutes, mais oui, j'en ai un à côté, et ils ont fait une partie de 3 heures hier. Donc le jeu il est énorme, hein. Il prend 4 tables, c'est incroyable. Hein, mais après, si vous avez 20 minutes devant vous, il y a des petits jeux. Si vous avez plus de temps, il y a des gros jeux. Quoi. C'est vrai, ça qui est bien. En fait, hein. Vous pouvez en enchaîner, votre milliard.
Voilà. Bah, on vous attend au salon du jeu de Lunès. Venez voir Alex de la maison Paria.
Tout à fait.
Maison d'édition.
C'est ça.
Merci en tout cas.
Merci à vous. Bon courage. Et puis
ouais.
Bonnes interviews pour tout le monde.
Oui.
Bah, ça commence bien.
Mais on est très bien.
Vous cherchez la suite ou c'est qui le prochain?
Alors le prochain, c'est... Ah bah ouais, on va faire comme ça. C'est le...
Ça vous évite de bouger, c'est parfait ça.
Oui, parce que Romain, il a mal...
En plus, c'est un petit souci de cheville. Mais...
Ouais, c'est très bien.
Ah, c'est les temps sont durs, c'est l'hiver. C'est Captain Meeple. Qui est juste là avec...
Ah oui, ils sont juste là. Bah, je vais aller l'engueuler, je vais dire de venir. Est-ce qu'il glande en plus?
Oui, mais je crois qu'il est avec son... Oui, il est avec son chapeau de capitaine et...
Ouais, il fait semblant de travailler, on va aller
il est là-bas.
Merci Alexandre, en tout cas.
Merci à vous.
Le stand Paria au Salon du Jeuche.
Eh ben oui.
On continue, Benji, t'as un disque à pousser ou on fait ça à l'ancienne, on chante ou...
Regarde, on met un petit peu de musique. Et on revient dans 10 minutes, 10-12 minutes, 10-15 minutes.
Allez,
10 minutes, entre 5 et 10 minutes.
Qu'est-ce que tu nous as préparé comme petit disque? Dua Lipa?
Non, même pas, c'est MC Solar, c'est au hasard là.
Ah, très bien.
Voilà,
MC Solar, restez avec nous.
A tout de suite.
A tout de suite.